Bonjour, Comme un bruit qui court, c'est le nouveau magazine de reportage de France Inter qui raconte aux uns comment vivent les autres.
Au programme cette semaine, sur les marchés avec les traders, à Sivens avec les zadistes et en Belgique avec des musulmans qui non, ne sont pas tous des djihadistes.
Comme un bruit qui court, en direct du studio 611 de la Maison de la Radio, nouvelle revue vivante et radiophonique des alternatives.
Les médias voient la question de l'islam d'une manière très particulière, ce qui fait qu'ils sont prêts à accepter n'importe quelle information pourvu qu'elle les conforte dans l'idée qu'il y a une menace islamique.
Attendez, moi quand j'investis sur une société, c'est quand même pas pour lui donner des sous.
T'as raison, ça peut pas durer.
Je suis pas fou.
Faut arrêter tout ce bordel, hein, passer tout.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent?
Oui, madame, très sérieux.
Là, j'aurais fini.
Vous aussi soyez dans la confidence des marchés. Guy va passer toute une nuit avec de vrais traders. Bientôt, les CFD, vous saurez tout sur les CFD, les effets de levier sur les produits dérivés, le scalping. Devenez un winner ou un frondeur. Antoine, lui, est retourné du côté de Sivens, revoir les opposants à la construction du barrage. Nous y étions allés, déjà, en septembre, au début des travaux de défrichement contestés. La semaine dernière, le jeune militant écologiste Rémi Fraisse a été tué par les forces de l'ordre. La mobilisation continue. Et de mon côté, je suis partie en Belgique, accompagner la mère d'un jeune parti faire le djihad en Syrie, dans un rassemblement contre l'islamophobie. Parce que les musulmans ne sont pas tous des djihadistes.
Antoine Chao.
Anaël Verso.
Guy Mondi.
Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
On va commencer sans plus attendre par de l'analyse.
Sur les marchés, gagner c'est bien, ne pas perdre c'est mieux.
Gagner c'est bien, ne pas perdre c'est mieux. Joli slogan, sage slogan, mais gagner c'est quand même mieux. Surtout quand on peut gagner beaucoup. Vous vous souvenez comment nous avions en septembre dernier écouté les appels pour une France qui gagne à l'université d'été du MEDEF. Et fidèle à sa mission de service public, comme un bruit part cette semaine embedded avec ceux qui bougent et vont de l'avant. Nous voilà donc salle Wagram près de l'Arc de Triomphe, mercredi soir pour la nuit du trading. Chaîne boursière, presse business, agence de courtage, tout plein de professionnels de la profession qui étaient réunis pour un grand prêche devant un parterre d'investisseurs amateurs. Le but, encourager les petits portefeuilles à spéculer sur les indices boursiers, sur des actions, sur des matières premières, des devises. Alors que vous soyez bullish ou bearish, il est temps de sauter dans le grand bain. Nous partons en immersion, chers auditeurs, devenez vous aussi des traders.
À vous Alexandre, je vous laisse démarrer. Donc bonsoir à tous, bienvenue donc dans cette Minute Trading, seconde édition. On va décomposer cette intervention en deux parties, une partie macroéconomique et puis une partie technique, avec les objectifs, horizon quelques mois,
fin Q4, début Q1, sur les principaux marchés européens et américains, principales paires de devises, et on fera un point sur les matières premières.
Investir en bourse, c'est savoir saisir les opportunités.
Macroéconomique, résurgence de la crise de la dette également.
Faire preuve d'audace.
Choc systémique.
Et de réflexion.
Et la crise des subprimes.
Acquérir de l'expérience.
Tout ce qui nous intéresse, c'est être en amont. En amont de tout ça, de dire à quel moment on peut estimer que le marché est en tendance haussière et va y rester.
Donc, le marché a des chances d'aller voir beaucoup plus bas.
Tracez votre parcours.
Marché plus bas. Le marché du plus haut touché purge.
Vivez le trading avec IG.
C'est pas mal ici. Là. Ah oui, c'est là où il y avait l'espace d'exposants.
Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est ici qu'il y aura la salle, tout ce qui est collation, etc., où les participants vont venir. Et la musique de fond, par contre. Je suis Alexandre Baradez, je suis chef analyste chez IG France. Alors, le New Trading, c'est la deuxième version à laquelle on assiste ce soir. C'est un mélange de points, ce que j'ai fait ce soir, macroéconomique, avec des visions court et moyen terme. Il faut être optimiste, négatif. Comment traiter sur les marchés financiers.
Alors si vous voulez faire la version courte, est-ce qu'il faut s'attendre à des bonnes choses ou pas?
Très positif. Attendons que les indices commencent à repartir un petit peu plus à la hausse, 5-6% de plus. Je pense que ce sera le signal cette fois-ci pour aller voir beaucoup plus haut. Donc à ce moment-là, oui, je pense qu'il faudra revenir sur le marché actions.
On va retourner voir, parce que moi je ne veux pas rater.
Eh bien écoutez, on y va tout de suite.
Bon bah très bien.
Si vous voulez tenter de faire des points comme ça...
Bah ouais, moi ça m'intéresse.
Autrement, vous pouvez appeler, il n'y a pas de... Comme ça, là.
Bonsoir. Alice, qu'est-ce que vous pensez du
du marché. Est-ce qu'il est logique, est-ce qu'il est bien valorisé, est-ce que vous êtes à l'aise avec les prix actuels?
De mon point de vue, pour répondre à la question, non, les marchés ne sont pas rationnels, et heureusement. Sinon, je ne vois pas très bien comment vous et moi, on gagnerait de l'argent. C'est-à-dire que heureusement qu'il y a des périodes d'exagération et des périodes où tout le monde a peur, comme on a vu ces derniers temps, parce que c'est des opportunités pour nous, et c'est comme ça, je pense qu'il faut le saisir. Donc moi, je suis bien contente que les marchés ne soient pas rationnels, c'est pour moi une pure opportunité, donc je saisis les opportunités.
Merci encore. À très bientôt. Bonne démonstration, on peut vous retrouver en bas, au moins un, pour parler de tout ça, et évidemment, pour aller plus loin avec vous. Donc le cocktail, c'est juste en dessous, au moins un.
Voilà, fin des conférences pour cette première partie de la nuit du training, deuxième édition. Certaines nuits portent plus conseils que d'autres. Il suffit d'être au bon endroit. Et voilà, on y est au bon endroit, chers auditeurs, à l'occasion de cette nuit du trading. Et là, je vois les trois conférenciers de cette conférence, comprendre et exploiter l'analyse technique, qui sont assaillis de spectateurs qui viennent prendre des conseils et se faire expliquer où va le marché et donc où va le monde. France Inter, comme un bruit qui court, courait derrière le marché.
On rentre dans un autre monde. Ce qu'il faut savoir vraiment, c'est ça, les règles de money management classiques. Placez pas un stop à 10 si c'est pour placer une limite à 5. Ça veut dire qu'il va falloir 66% de trades gagnants pour commencer à gagner de l'argent. Plus vous êtes sur un horizon de temps court terme, plus c'est délicat de capter une tendance claire de marché. Trades gagnants, money management classique. On rentre dans un autre monde.
Bonjour. Là, vous êtes un trader, vous ?
Non.
Vous jouez en bourse un peu ? Je voyais demander des conseils au monsieur, là.
En fait, je suis plutôt étudiant
en finance.
Ouais. Et dans 2 mois aussi, je compte m'y mettre.
Vous vous destinez à cette carrière-là ? Vous voulez faire trader ou...
Ça serait l'idéal. Trader, c'est le métier le plus rapide pour faire de l'argent avec de l'argent. Et c'est le but de toute entreprise. Donc, voilà.
Plutôt que faire travailler les gens, autant faire travailler l'argent.
Moi, je me vois bien tout seul devant mon ordinateur avec des chiffres sans avoir besoin de gérer des personnes.
Bon, bon courage pour votre lancement sur les marchés. Bonsoir, monsieur.
Oui.
Vous êtes trader vous-même ?
Ah non, c'est comme un hobby. C'est-à-dire que je l'ai fait alors que j'étais encore en activité professionnelle parce que j'avais le temps de le faire. Et puis là, je vais recommencer parce que j'ai une grosse rentrée d'argent et puis je voudrais en profiter un petit peu. Voilà.
Qu'est-ce que vous cherchez, vous ?
Ce que je cherche, c'est la formule miracle qui va me permettre de faire des performances extraordinaires. Maintenant, je plaisante, mais c'est...
C'est un peu ça quand même.
Dans tous les cas, c'est un peu ça.
Mais ils ont été quand même mal vus pendant un moment, les traders, après la crise de 2008, justement. Tout le monde disait la bourse fait plonger les économies dans le rouge.
Oui, tout à l'heure, on a eu la preuve en regardant le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Le CAC 40, c'est les 40 françaises. On voit bien que la crise, effectivement, a eu de l'impact. Les cours ont baissé, mais actuellement, les cours ont été largement rattrapés. Et donc, tout le monde continue à gagner de l'argent tranquillement. Hein.
C'est pour ça que vous aussi, vous voulez en être.
Mais naturellement.
C'est la bagarre au buffet, là. J'ai réussi de haute lutte à obtenir une coupe. Voilà au stand Investir, le journal des finances, avec en une la montée en puissance des résultats. CAC 40, les comptes du troisième trimestre sont meilleurs que ceux du premier trimestre. Et surtout, un gros dossier annoncé en une, niche fiscale. Tous nos conseils pour payer moins d'impôts.
Bonsoir.
Monsieur Monnier, vous êtes directeur de la rédaction du journal Investir.
Oui.
La France va mal, les indicateurs sont toujours dans le rouge, le chômage continue de plonger, la croissance stagne. Et j'ai l'impression qu'il y a une certaine pêche ici, ce soir à la nuit du trading.
Oui, parce que les investisseurs savent, et les épargnants savent que la bourse est un marché mondial. Et Wall Street se porte très bien depuis le début de l'année. En Chine, la croissance ralentit, mais elle reste sous contrôle. Donc ça donne un effet d'optimisme aux investisseurs, même si en France, c'est un petit peu sinistré avec un risque à nouveau de récession, un risque de déflation. Mais en bourse, il y a toujours des bonnes affaires. Il y a toujours moyen de trouver des pépites. En tout cas, les personnes qui sont là ce soir sont là pour dénicher de nouvelles idées, de bonnes idées.
Et ça, puis, je vais vous demander après quelques précisions là-dessus pour mon petit pécule.
D'accord, si vous voulez, ou à la radio ou en off, je vous donnerai quelques petits conseils pour améliorer vos gains dans votre portefeuille boursier.
Pour créer de l'emploi, il faut investir. Pour favoriser le retour de la croissance, il faut investir. Pour favoriser le retour de la hausse des prix, il faut investir également. Et la zone euro reste attrayante pour les investisseurs. Bonsoir.
On va commencer à prendre des questions, on prend un petit peu d'avance sur le programme. C'est vrai qu'il y en a déjà beaucoup, beaucoup. Peut-être pour vous, Jean-Louis, quoique ça peut être pour tout le monde. Pensez-vous, que pensez-vous non, je vais y arriver. Vous pensez que le CAC va terminer l'année à quel niveau? Voilà. C'était simple, en fait. Le CAC, bon, c'est un peu boule de cristal, hein, mais on va se rétablir, Jean-Louis, comment vous...
Non, mais
vous
c'est typiquement le genre de question, pour moi, qui ne sert à rien, parce que...
Merci pour lui, pour celui qui a posé la question.
Non, mais
vous n'êtes pas le seul à le penser.
Moi, mon rôle, c'est pas d'être devin. Mon rôle, c'est d'établir des scénarios probables.
C'est la deuxième édition de la Ligue du Trading.
Bonsoir, monsieur.
Oui.
Est-ce que vous êtes trader?
Oui.
Alors, comment ça se fait que vous n'êtes pas en costard avec une cravate et tout, comme beaucoup des traders qui sont ici? Parce que je faut que je vous décris, vous avez une veste en cuir, des petits stylos qui sortent de la poche de devant.
Ben, parce que je crois que la majorité des vrais traders, je ne parle pas de ceux qui travaillent pour des banques, là, ceux qui sont des vrais traders qui en vivent, sont habillés comme vous et moi, prennent des vacances comme tout le monde, parce que de temps en temps, on va déployer. Moi, je vais vous dire, je suis devant mon ordinateur entre 10 et 12 heures par jour. Personnellement, il m'a fallu, je dirais, presque 30 ans pour comprendre que l'investissement à la façon papa, c'était une... Passez-moi l'expression, une connerie fondamentale, puisque moi, quand j'ai démarré, effectivement, j'ai passé de l'argent dans des entreprises auxquelles je croyais pour différentes raisons, en espérant bien naturellement en retirer un profit. Mais c'était quelque part, on faisait marcher l'économie. Actuellement, celui qui fait ça, il est sûr de tout perdre.
C'est un pigeon, quoi.
Ah non, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus.
Donc c'est pas pour l'économie?
Ah non, non. C'est pour gagner de l'argent.
Forcément.
Pour gagner de l'argent. Attendez, moi quand j'investis sur une société, c'est quand même pas pour lui donner des sous. C'est pour qu'elle mende. Je suis pas fou.
Bon, il faut qu'on aille suivre le reste de la conférence, sinon on va perdre des opportunités de faire du profit et faire des plus-values.
Éventuellement, oui.
Quand même, on est là pour ça, quand même, au bout du compte.
Absolument.
Bon, et vous avez un dernier conseil à me donner pour moi? Parce que je me lance, moi.
Alors, ben, le conseil que je pourrais vous donner, si vous vouliez vous lancer, il y a une règle fondamentale.
Au dernier bulletin météo, tempête sur la zone euro, j'en fais mon bise, le soleil brille dans ma tête. Leader dans les affaires, marché, bulle financière, bunga bunga dans ma piscine, ça en jette.
Chiffre du jour, un chiffre avec beaucoup de zéros, 4 000 milliards de dollars, et bien c'est ce que devrait coûter la crise financière à l'ensemble de l'économie mondiale, que ce soit aux États-Unis, en Europe et au Japon. Bonjour.
Bonjour. Nous verrons ici la technique de trading.
Je joue toutes les thunes qui défilent, je joue les mailles de ta retraite en fin d'année, je me fais une prime, et si je perds, tu paies la dette. J'investis dans l'environnement, à sa fonction c'est de l'argent, je spécule sur les aliments, le blé, le riz, c'est du diamant.
Et si jamais ça va, sera jamais trop tard. Et si jamais ça foire, sera jamais trop tard.
Le marché des produits financiers dérivés dont parlaient nos amis a déjà dépassé le niveau mondial d'avant la crise de 2008, pas plus tard qu'il y a quelques mois. Plus de 10 fois le PIB mondial qui est dépensé par nos amis retraités sur les produits dérivés. Vous aussi tradez.
Et ça a été coupé quand tout ça là autour? D'accord. Donc vous avez protégé tout ce bosquet, c'est ça, toute cette partie?
Comme on est là, il y a certains arbres qui peuvent pas couper, quoi.
C'est une course contre la montre, hein, c'est ça qui est en train de se jouer là?
Nous, pour éviter d'être qui viennent nous chercher, et on milite pour défendre la forêt. On demande juste que tout ça soit remis en cause. On demande juste que les gens discutent. On attend toujours.
Ah, ils avancent là. Voilà, voilà, voilà. Ça sent la charge. Attends, on voit ça y va. Il y a deux caddies avec un sommier pour pouvoir s'approcher. Il y a du lacrymo de toutes parts.
Des actes qui peuvent donc frapper les forces de l'ordre, alors même que ces forces de l'ordre sont au service de la République.
La mort de Rémi Fraisse a été occasionnée par l'utilisation de grenades,
ministre de l'Intérieur,
dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre.
Grenades, selon toute vraisemblance, lancées par les forces de l'ordre.
Qu'un jeune puisse mourir pour défendre ses idées ou pour contester un projet, moi je ne peux pas l'admettre.
Ils s'en sont passés des choses du côté de la forêt de Sivens depuis notre premier reportage début septembre, quand les bûcherons se mettaient à l'ouvrage sous haute protection policière. Et malgré la mobilisation de riverains, du collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet et des zadistes qui occupent le terrain, les travaux ont continué coûte que coûte. Déboisements et défrichements ont été menés à bout, les gros engins ont commencé à décaper la terre végétale et à creuser des tranchées pour construire la digue. Toujours sous haute protection policière, puisque ce projet ne fait pas l'unanimité et que les porteurs du projet veulent aller vite. Et la semaine dernière, dans la nuit de samedi à dimanche, c'est le drame. La mort de Rémi Fraisse, venu soutenir les opposants au barrage, tué sur le coup par une grenade offensive lancée par les forces de l'ordre. Ça se gâte, et moi et embarras. D'autant que le rapport d'expertise demandé par la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, rendu public le lendemain, dénonce un projet médiocre qui cumule les inconvénients. On retourne sur le terrain.
Mais la planète dont vous parlez, on la connaît. Il n'y a pas de pain qui pousse sur les branches. Demain, qu'est-ce qu'on va faire? Comment va-t-on s'y prendre?
Bonjour.
C'est bien?
Ouais, ça va. Bon. Et vous?
Ça va, on a le soleil aujourd'hui.
C'est vrai, hein?
Oui.
Moi, j'étais venu vous voir il y a 2 mois.
Oui, ouais. Je me rappelle, hein. Je me rappelle, oui.
Elles sont là, les vaches, alors, Pierre?
Ah, c'est que les veaux, ouais.
Ah, c'est que les veaux.
Ouais.
Ah, ça sent bon, là, ouais.
Ah, ça sent la vache.
Ah, ça, c'est les veaux en engraissement.
En engraissement, et puis quelques-unes, ça, c'est une verre que je vais garder pour faire des veaux plus tard. Une future vache.
Thierry?
Oui?
Comment il nous a dit quand il a téléphoné dans la nuit qu'il nous a menacé? Des représailles.
Ouais, des représailles.
Vous avez été menacé?
Oui, par téléphone. Hein.
Mais qu'est-ce qui vous reproche, alors?
Eh bien, d'être contre le projet du barrage. Et d'être contre le projet du barrage, d'être... De tolérer la présence des zadistes, hein, puisque, bon, nous, eh bien, on est très contents. On l'a déjà dit, nous, les zadistes, nous, on est contre le barrage, les zadistes sont contre le barrage, et depuis qu'ils sont là, pour l'instant, eh bien, les travaux, bon, maintenant, les travaux ont bien avancé, mais cet hiver, quand ils étaient là, ils ont empêché les travaux de se faire. Et donc, on était très contents que les travaux ne se fassent pas, puisqu'on est contre le barrage, vous savez d'où. Après, bon, peut-être il y en a qui ont eu des problèmes avec eux, je ne dis pas le contraire, mais nous n'avons jamais eu de problème avec eux, voilà.
Et là, le fait qu'ils vous retirent 7 hectares pour la construction du... Enfin, qu'ils vous aient retiré, hein, de 7 hectares, oui. Ça vous empêche de travailler, enfin, de continuer l'exploitation telle que vous le faites?
Ça m'empêchera de continuer telle que je fais. Et à terme, bon, moi j'ai 50 ans, j'arriverai jusqu'à la retraite, il n'y a pas de problème. Mais mon fiston qui aurait sûrement voulu s'installer, ben, lui ne pourra pas s'installer. On ne lui permettra pas de s'installer sur mon exploitation, parce qu'elle est vraiment trop petite. Hein. Donc on ne lui permettra pas de s'installer. En bovine viande toujours. Bon, peut-être s'il veut faire du maraîchage ou autre, peut-être il pourra. Mais pour s'installer dans une agriculture comme celle que je fais pour l'instant, il ne pourra pas. Ça, c'est sûr.
Alors, ils ont des noms, c'est vous ou pas?
Non.
Ok. Elle est docile comme un zadiste. La petite vachette, là.
C'est que c'est un très bon éleveur, c'est que voilà, il prend le temps de les toucher, de les caresser, il aime ses bêtes. Mais ceux qui ont 100 ou 200 bêtes aujourd'hui, quand tu reproches d'elles, elles s'en vont. C'est...
On a perdu le contact avec ces vaches. Les chambres d'agriculture se sont posées la question parce que maintenant, un éleveur, souvent, il est sur son tracteur, il donne à manger à ses vaches depuis son tracteur, il paille ses vaches depuis son tracteur, et donc il perd le contact avec ses animaux. Et la chambre d'agriculture fait des stages aux éleveurs pour qu'ils apprennent dans la journée à se poser demi-heure, à rester au milieu des bêtes, pour voir leur comportement. Une fois qu'elles sont lâchées, qu'elles ont fini de manger, on voit très vite les vaches malades, qu'elles sont mal portantes ou n'importe, parce qu'elles ne sont pas bien, elles ne ruminent pas bien, elles ne se couchent pas. Et donc, on réapprend à l'éleveur, de visu comme ça, à arriver à voir si une vache va bien ou pas bien. Alors, c'est quand même quelque chose. C'est pas mal.
Non, mais le bras pour des cons, c'est plus.
Moi, c'est le truc que j'ai jamais fait.
C'est plus hardi, le
bras. Moi, les vaches, je les vois tous les jours, j'y vais au milieu, je les caresse et tout, tout va bien, mais bon.
Nous, on ne sait plus rien faire, les paysans, on est trop cons, nous, on ne sait plus rien faire. La fin de la veille à nous.
Et vous faisiez quoi, vous, Rémi?
Rien.
Et élevage aussi, non? C'était oui. Pas l'élevage. Si, élevage aussi.
J'ai longtemps fait la brebis viande. Voilà. J'ai fait un peu
la brebis.
J'ai ouais. Fait la brebis de Roquefort dans l'Aveyron. J'étais salé dans l'Aveyron. J'ai très 12 ans de brebis. On faisait du lait de brebis. Et moi, je te l'ai déjà dit, j'étais un productiviste. J'avais 600 brebis. T'es pas rigolo, moi.
À l'époque, ça faisait pas semblant.
Il y a des repentis dans la mafia. Il peut y avoir des paysans repentis. Ça peut exister. Quoi. Je combats l'agriculture que j'ai faite. Voilà. On s'était trompé, on s'est trompé. Eh oui, tiens là. On s'est trompé, hein.
C'est bien de le reconnaître.
Il y avait pire, mais enfin, je voyais bien qu'on n'était pas sur la bonne route. Quoi. Et on avait les crédits agricoles au cul qui. Nous, moi, j'avais emprunté pour acheter la ferme, j'avais emprunté pour acheter les machines, pour faire la maison, pour faire la bergerie. Alors, t'avais peur de changer de cap, quoi. Tu disais, si je me passe en bio, peut-être que je pourrais pas rendre cet argent. Aujourd'hui, il y a des facilités pour passer en bio, il y a des primes importantes. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Au contraire, celui qui passait en bio, t'es... il y en avait un, il vendait les produits au marché, il ne disait pas que c'était bio parce qu'il en vendait moins.
C'est la fin de saison, mais il fait encore beau là, hein, sur la vallée du Tescou. Hein. C'est magnifique. Alors Rémi Serre, vous êtes paysan ici, à la retraite, et vous regardez avec un peu de recul hein, toute cette lutte qui se mène autour du barrage de Sivens.
J'ai découvert cette lutte, ça fait plus d'un an. J'ai été plusieurs fois aux réunions du collectif. À l'époque, il n'y avait pas les zadistes. Et voilà, et ça m'intéresse dans le sens que noyer 40 hectares de terre, pour moi, c'est un crime. Quand un département français disparaît tous les 7 ans, et donc dans 700 ans, il y aura le plus de terre. Donc moi, ça fait partie de ces 40 hectares d'alluvions, de terre qu'on pourrait faire dégender, où on pourrait nourrir pratiquement la population de kayak qui vont disparaître sous l'eau. Et après, le reste, les insectes, tout ce qui est dans la zone humide, la biodiversité est aussi indispensable que l'air ou que l'eau. Aujourd'hui, la zone est déboisée. Tout n'est pas perdu puisqu'ils n'ont pas encore décapé. Donc tant qu'on n'a pas décapé, on n'a pas détruit toutes ces bestioles qui vivent dans la terre. Donc aujourd'hui, on en est là, on a juste décapé là où on devrait faire la digue, mais il y a encore la majorité du terrain qui est tout simplement déboisé. Aujourd'hui, nous en sommes là. Il y a des forces de l'ordre qui aident les machines à passer, qu'il y a des zadistes et nous-mêmes qui essayons de les arrêter. Mais ils sont plus forts que nous, donc il y a eu Rémi qui a payé cette résistance de sa vie. Dimanche, il y a eu une marche blanche en l'honneur, je ne sais pas s'il faut dire l'honneur, mais en tout cas en mémoire de Rémi. Donc on a planté un arbre à l'endroit où il a été tué, et je ne vois pas comment aujourd'hui on peut continuer à vouloir faire ce barrage. Le jour qu'on voudra arracher cet arbre qui nécessairement devra être arraché puisqu'il est planté sur la future digue, si le foirage se faisait, il y aura une résistance telle que nous sommes plusieurs à penser qu'il y aura d'autres morts. Donc, comment faire aujourd'hui à part arrêter ce barrage, je vois pas comment l'État ou le Conseil général peut penser en force. On ne sait pas comment on réagit quand on est encerclé, quand on nous lance des grenades, quand on nous lance des cailloux. Donc la violence, il ne faut pas la commencer, sinon ça peut pas. On ne sait pas où ça s'arrête. Mais ça ne va pas s'arrêter là, ça ne peut pas s'arrêter là, parce que on est nous sommes déterminés, les zadistes et nous-mêmes, les collectifs ou les gens qui défendent cette zone. Aujourd'hui, il faut tout simplement arrêter ce barrage parce qu'il est inutile déjà. Les projets datent de 12 ans, dont depuis les paysans se sont équipés. Aujourd'hui, on fait ce barrage pour une douzaine de paysans. Économiquement parlant, c'est même une aberration puisque l'eau du barrage va coûter plus cher que l'eau du robinet. Donc ce barrage n'a plus lieu d'être, ni économiquement, ni bien sûr écologiquement. C'est simplement que voilà, nos hommes politiques ne veulent pas revenir en arrière et ne veulent pas perdre la face.
Il n'y a pas d'abandon du projet.
Ségolène Royal.
Aujourd'hui, il y a une suspension par la force des choses, des travaux.
Ministre de l'écologie.
Qui a été décidé par le président du Conseil général.
5 novembre 2014.
Je crois que chacun doit avoir la force de se hisser au-dessus de ses intérêts personnels pour construire le bien commun et l'intérêt général.
Ces préconisations, elles visent à ce que l'on ait un peu plus d'eau.
Thierry Carsenac.
Qui aille vers...
Président du Conseil général du Tarn.
La rivière et donc la qualité environnementale de l'eau pour permettre à ce qu'il y ait 150 litres seconde. Et derrière cela, c'est permettre en plus la possibilité d'utiliser de l'eau pour l'irrigation.
Alors, c'est la ferme de Pierre et Nadine Lacoste et le père de Pierre qui est Lucien. Ah, elles mangent de bon appétit, hein ?
Oui,
oh oui.
Vos vaches, hein, Lucien ?
Elles ont bon appétit, ça c'est sûr, oui.
Vous, Lucien, ça fait plus de 30 ans que vous vous battez contre ce barrage, enfin que vous essayez de protéger cette vallée du Tescou, mais on n'est jamais arrivé à un degré de violence pareil.
Non, 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 non. C'est juste maintenant, là, où on est arrivé à un degré de violence. D'ailleurs, bon, il est bien dit que le préfet avait demandé aux gardes mobiles de mettre le paquet, voilà, parce qu'on avait envie de faire partir les zadistes. Mais il faut savoir que ces gens-là, comme ils n'ont rien à perdre, plus on leur demande de partir et plus ils ont envie de rester. Voilà. Et là, il n'y a rien à faire. Là, Madame la ministre a dit qu'il fallait les faire partir. Je suis très sceptique sur ce point-là parce que plus on leur dit de partir, plus ils restent. S'ils ont envie de rester, on ne les fera pas partir. Moi, je les remercie d'avoir été là dans les moments où on avait besoin d'eux, c'est sûr.
La lutte continue, Lucien, aujourd'hui?
Ah oui, la lutte continue, ça, il faut. Ne serait-ce que pour Rémi Fraisse, hein, il faut montrer qu'on continue. Voilà.
Au départ, on a dit lancerons un film à faire ensemble. Et effectivement, on l'a fait à beaucoup. Mais pas tous à la fois, évidemment.
Un studio aurait été trop petit.
Bah, y a pas eu de studio, ça s'est tourné dans la rue, dans les champs, un peu partout.
Alors ce soir, dans Tazad, projection de l'an 01 à 19h. Il y a un programme culturel aussi, quand même.
Ouais, c'est un peu... voilà, le mode de vie collectif, c'est aussi... construire,
on
bâtir.
On fait un pas de côté, hein, on fait une pause, on réfléchit, c'est ça l'an 01, quoi. Le film de GB.
On arrête tout, on recommence.
Et en attendant, alors, la vie continue ici, sur la ZAD.
Étant donné que maintenant on essaye de proposer un autre système aussi, un mode de vie collectif un peu différent, on essaye de toucher un peu à tout, que ce soit des groupes automédias qui se sont fondés. L'équipe légale aussi qui gère toutes les questions juridiques, il y a une radio ici, il y a encore quelques jours il y avait une gazette qui proposait une page recto verso tous les jours sur un peu les événements qui se sont passés ici, des textes poétiques et autres. Donc voilà, ça c'est pour le côté culturel, mais il y a un copain qui a essayé d'être invité à la réunion des ministres au ministère de l'écologie et de poser ces revendications qui ont été écrites collectivement par des personnes qui ont voulu écrire des communiqués, des textes, dans le groupe Automédia justement, qui ont été approuvés collectivement. Il s'agissait entre autres de l'abandon du projet de barrage, donc ça nous semble vraiment d'une évidence, de la protection des zones humides contre les déclarations d'utilité publique. On demande toujours le gel de tous les projets nuisibles, soi-disant d'utilité publique, et de tous les projets écocides. La réforme du processus d'enquête publique pour les projets d'aménagement, c'est-à-dire la mise en place de commissions indépendantes et populaires disposant d'un pouvoir de contrainte. On demande de pouvoir encadrer l'influence de l'expertise pour que celle-ci ne soit plus que consultative. La mise en place d'un débat public contradictoire préalable avec l'obligation d'une mise à disposition au public de l'ensemble des infos relatives aux enjeux du projet. La cinquième revendication, c'était remise en cause de la validité des cadres et processus de partenariat public-privé et délégation de services publics à l'origine de projets spéculatifs. Et ce qui nous semble toujours également évident, c'est l'amnistie pour les inculpés de Sivens, Donc tous les copains actuellement qui vont avoir des procès aux fesses ou même qui en ont eu, il y a déjà des copains qui ont pris de la prise en ferme, quoi. Ça concerne toutes les manifs de soutien qui ont eu localement, mais aussi nationalement et même à l'étranger. Donc on demande vraiment l'amnistie pour tous ces inculpés-là. On demande, encore une fois, que des choses évidentes, hein, mais la fin de la présence policière et militaire sur zone. Donc actuellement, on voit que... On entend peut-être qu'il n'y a plus de policiers ni de militaires sur zone. Donc ça nous permet aussi de pouvoir avancer sur nos projets. Et on demande l'abandon définitif des armes offensives de la police et de la gendarmerie. Donc toutes ces armes dites non létales, ils nous ont bien prouvé dernièrement qu'elles ne sont pas que non létales, quoi, qu'elles peuvent aussi permettre de mutiler, blesser, voire tuer des copains. Et la reconnaissance de la responsabilité de Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, dans le meurtre de Rémi Fraisse. Voilà, c'est 9 revendications qui ont été écrites collectivement, qu'on a essayé de proposer, qui n'ont pas été entendues. Et voilà, qu'on clame haut et fort maintenant, aujourd'hui, s'ils veulent vraiment nous voir partir d'ici, quoi.
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Comme un bruit qui court depuis la ZAD du testé.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
Où vont les subventions ? Qui prend les décisions ? Qui fait les constructions ? Sans manipulation ? Où est la concertation ? Et la participation ? Pour les attributions ? Sans manipulation ? Et la bétonisation ? Et pour les plantations, et pour l'irrigation, sans manipulation, pour la démocratie, c'est quoi l'écologie?
Et pourquoi on le ferait pas plus souvent? On pourrait le faire tous les jours, on pourrait le faire 10 fois par jour, 20 fois par jour.
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Et qu'est-ce que vous ferez pour nourrir votre famille? Vous irez chasser le bison?
Ah, on enverra tous les gars qui fabriquent ces cochonneries.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Dites-moi monsieur, c'est sérieux les bruits quoi?
Monsieur le ministre de l'Intérieur s'est adressé solennellement aux Français. Je vous adjure de renoncer à toute action de caractère irréfléchi qui ne pourrait que précipiter le pays dans le chaos et le conduire à sa ruine. Français, Françaises, ressaisissez-vous.
Ça, on vous l'aura dit. Tout est à refaire. Ça, on vous l'aura dit. Tout est à refaire. Ça, on vous l'aura dit. Tout est à refaire. Ça, on vous l'aura dit. Tout est à refaire. Ça, on vous l'aura dit. Tout est à refaire. Ça, on vous l'aura dit. Tout est à refaire. Ça, on vous l'aura dit. Tout est à refaire. Ça, on vous l'aura dit.
Depuis les années 70, toutes les idées ont été adoptées, toutes les utopies finalement réalisées. Alors quoi?
T'as raison, ça peut pas durer. Faut arrêter tout ce bordel, hein, passer tout.
Ça va être fini. Hein.
Ah oui, c'est vrai que tout a été dévasté, enfin, rasé. Il y a eu le passage de la broyeuse, alors il y a des copeaux de bois partout. Le petit escou là, qui est tout petit, on a peine à croire que ce petit escou, il va remplir tout cet espace de 40 hectares de retenue d'eau. C'est ici qu'est tombé Rémi Fraisse. Et il y a un cercueil en carton qui a été posé là. Rémi, 1993-2014, ZAD du Testet, avec des fleurs posées dessus, des fleurs, des bougies et des petits mots qui ont été accrochés à un grillage pour protéger justement l'endroit où Rémi est tombé. Et on voit des traces, on voit les traces de sang là sur ce bout de terre jaune, damé comme une dalle. Donc ici, il y a toute la terre végétale qui a été enlevée. C'est une terre glaise jaune très collante qui est à nu, sur laquelle est tombé Rémi il y a une semaine maintenant. Et il y a plein de mots. Oui, Rémi est un camarade. Et si c'était votre fils? Monsieur Carsenac, monsieur le prophète, vous avez du sang sur les mains. Ça ne vous fait rien. Il est encore temps de tout arrêter. Une colombe s'envole, mais le combat perdurera. Et à côté du cercueil, il y a toute une série de bombes lacrymogènes, grenades, qui ont été lancés par les forces de l'ordre. Honte à cette violence faite aux jeunes opposants au barrage de Sivens. Voilà, c'est ce qui a été inscrit sur cette bombe. Et pendant ce temps, donc, il y a des jeunes militants là, qui reconstruisent la ZAD, la zone à défendre. On n'éteint pas le soleil en tirant dessus. Ça, c'est une pancarte qui est posée sur ce grillage, l'endroit où Rémi est tombé. Et là, on est vraiment au cœur du chantier et qui est occupé par les zadistes en ce moment, qui s'opposent à ce barrage. Rémi, tu es mort pourquoi ?
Bonjour, je m'appelle Serge Pey, je suis poète, j'habite Toulouse. Pour toi Rémi, j'ai porté sur le site là où se tenaient les gendarmes, qui ont lancé la grenade qui t'a tué, un aquarium avec un petit poisson rouge. Maintenant, ce poisson rouge fait des va-et-vient dans son bocal, comme un drapeau. On lui a mis un miroir pour lui laisser croire qu'il n'était pas seul dans sa cage de verre. Le miroir, qui reflète son image, est jaloux des autres images. Il voudrait être aussi un drapeau. Il souhaiterait avoir également un miroir pour ne pas être seul. Malheureusement, il doit se contenter du poisson rouge qu'il prend en dormant pour un autre miroir. Ainsi, le poisson rouge voit le miroir et le miroir voit le poisson rouge. Ensemble, ils font un seul drapeau qui regarde le bocal. Mais soudain, l'eau se met à saigner, car le poisson rouge, en regardant le miroir, l'a coupé comme un rasoir. L'eau est devenue toute rouge et nage en se prenant maintenant pour un poisson. Ensemble, le poisson et l'eau décident de casser le bocal et de recueillir l'encre rouge qui permet d'écrire ce poème, justement. L'eau est joyeuse et fait grossir tout ce qui se trouve parmi les verres brisés du bocal comme un œil qui regarde tout. Rémi, tu es encore avec nous.
On n'a toujours pas trouvé qui c'était celui-là qui avait tué Rémi.
Et là, vous reprenez possession ici des lieux, quoi?
Non, on ne prend pas possession des lieux. Nous sommes là jusqu'à temps que la justice rendra justice sur la mort de Rémi et que le projet sera définitivement enterré. Et pas juste suspendu.
Mais ça représente quoi ici, ce barrage, pour vous? Cette lutte?
C'est un mode de vie symbolique, je sais pas. C'est un mode de vie qu'on aimerait bien pouvoir pratiquer autre part que dans la lutte, mais on se fait chasser quand on le pratique autre part que dans la lutte, quoi. Du coup, ben, tant qu'à faire, voilà, autant créer un champ des possibles là où ils veulent créer un champ de boue, un an sur quatre. parce que voilà, ils veulent faire un barrage, mais en fait, tous les chiffres, ils sont foirés. Il n'y a pas de profondeur, 10% d'évaporation, et pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que c'est pas 10%, c'est pas possible. Il n'y a pas de profondeur. 3 ans de remplissage, il n'y a pas de débit, ils ont beau drainer toutes les collines alentour, c'est fantasmagorique, 3 ans de remplissage pour un barrage comme ça. Et on essaye de nous faire croire que c'est pour améliorer l'agriculture, je sais pas quoi, alors qu'en fait c'est pour transformer des vaches en mangeuses de graines, alors qu'en fait c'est des herbivores. On est en train d'enlever de la pâture à des vaches pour leur faire bouffer du maïs, tout ça pour pouvoir faire des sous sur l'eau. Et voilà, ici c'est un des symboles de la schizophrénie actuelle. Et en même temps, à côté, les gens qui veulent pas lutter parce qu'ils en ont marre de la lutte et qui veulent juste habiter différemment sans embêter personne en vivant dans une parcelle de bois. Donc voilà, les gens veulent vivre différemment, on les laisse pas faire. Après, en même temps, on leur met des grands projets inutiles sous le nez. Et ben voilà, la manière de révolter, ben, c'est occuper le terrain et montrer qu'on peut vivre autrement si on laissait des possibilités de le faire.
Du coup, ça devient un terrain d'expérimentation sociale, quoi, ici.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Depuis le début, c'est ça, je crois.
Et c'était quand le début ?
Le début ici, je sais pas. Moi, je sais que je suis passé au tout début de l'année et il y avait une trentaine de personnes déjà et qui étaient là depuis un petit moment. Et puis, il y a les Lacoste là-bas, au bout de la route, à 1 km, qui luttent depuis, je sais plus, je veux pas dire de bêtises, mais 30 ans, je crois, qu'on leur a dit qu'ils allaient avoir un barrage.
Il y a le père, Lucien Lacoste, déjà, ouais, qui se bat depuis 30 ans.
Ouais, voilà. Donc, je crois que même pour eux, ça a été une expérimentation sociale, parce qu'ils se sont rendus compte que peut-être il y avait des gens autour qui n'étaient pas d'accord avec une agriculture où on laisse des vaches pâturer dans les champs. Ils ont peut-être découvert que la lutte, des fois, c'était une fatalité, quoi.
Une obligation ou une fatalité ? Les deux, ouais.
Les deux, ouais. Les deux. Parce que s'ils veulent continuer à faire leur agriculture convenable, tranquille, ils peuvent pas, quoi. Ils peuvent pas, il faut qu'ils fassent comme tout le monde.
Donc là, on leur a retiré 7 hectares de pâturage.
Ouais, par exemple.
Et toi, t'es venu comment ici ? T'es arrivé comment ici ?
Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ouais. J'ai été au courant par quelques portails alternatifs d'informations sur Internet, trucs qui recoupent les différents sites d'infos, histoire d'arriver à avoir des infos. Chose difficile à l'heure actuelle. J'ai essayé de motiver des gens pour partir avec moi, personne n'était motivé, voilà, tout le monde absorbé par son métro boulot dodo. Du coup, je me suis décidé à partir tout seul. J'ai fait mes expérimentations sociales là-bas, moi aussi. Et puis après, du coup, je suis revenu chez moi avec des projets. Et du coup, maintenant, j'alterne entre mes projets et les luttes. Et voilà.
C'est l'école de la ZAD, quoi.
L'école de la ZAD, ouais. C'est plutôt l'école de la tolérance que l'école de la ZAD en elle-même. Je pense qu'il y a d'autres endroits où on peut apprendre la même chose.
Buenas tardes, señores y señoritas. Acá volvemos con Radio Pirata.
Depuis la forêt de Sivas. Tarn 2014.
El Ecuador, donde las nubes grises no existen ni el mar de fluye. Ahora, los fantásticos que pendai con anticapitalista.
Sivas sans barrage, ZAD partout.
Un moratoire, on avait demandé un référendum, on avait demandé que la population soit au courant et que le projet d'utilité publique soit remis en cause. On attend toujours. En attendant, il y a des gens qui bossent comme des mercenaires et on ne sait pas quoi faire de plus. Vie en danger pour protéger la forêt. On est des centaines à vouloir garder ce lieu. C'est une zone humide, rappelons-le, une zone humide, une zone protégée. Il y a 95 espèces protégées ici.
Noticia de último momento. Al dueño del BMW negro que está estacionado en la playa, que le saque de ahí, por favor.
Le barrage de Sivas devient une affaire d'État. La résistance continue aujourd'hui. Les lycéens se mobilisent en hommage à Rémi Fraisse et contre les violences policières. On arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste, disait GB dans le film L'An 01. Mais c'était du cinéma. La mort de Rémi Fraisse, c'est triste.
Comme un bruit qui court.
Contrairement à une idée qui commence à être un peu trop répandue, les musulmans ne sont pas tous des djihadistes. D'après l'Observatoire national contre l'islamophobie, les actes islamophobes ont augmenté de 11,3% en 2013 par rapport à 2012. Au-delà du problème humain, bien évident, que pose cette montée de l'islamophobie, c'est aussi un argument utilisé par les recruteurs pour le djihad en Syrie et en Irak pour convaincre les jeunes qu'il faut quitter cette terre de mécréants. Alors, avant de s'en prendre aux vrais islamophobes, commençons par faire notre autocritique. Y a-t-il un lien entre le traitement médiatique des départs pour le djihad en Syrie et l'islamophobie ? C'est avec cet état d'esprit que nous avons accompagné Fatia, dont le fils est parti faire le djihad en Syrie, dans un rassemblement contre l'islamophobie en Belgique. C'était le 28 octobre, à Bruxelles, et on y était.
que eux, dans leur tête, ils préparent la guerre sainte, ou est-ce qu'ils préparent la guerre raciale, ou est-ce qu'ils préparent autre chose? Ça, on peut pas être dans leur tête.
On n'est pas des terroristes.
Il y a tellement de musulmans dans ces coins, une telle concentration de musulmans, que tout sera halal.
Et moi aussi!
Tous ensemble, tous ensemble!
Nous parlons souvent, et c'est normal, c'est ma responsabilité, de l'islam.
Et je n'hésiterai pas à faire expulser ceux qui se réclament de l'islam.
Voilà, on arrive sur la place, et là c'est le palais de justice à gauche.
Le palais de justice qui est en travaux. En travaux, oui, depuis... 2-3 décennies maintenant. Ah bon?
Il y a quelques personnes qui sont installées là sur la place. Là, il y a des panneaux par terre. L'islamophobie tue. Et là, il y a une jeune femme qui porte le voile et qui prend le panneau « Touche pas à mon voile, égalitaire ». Coucou les enfants.
Bonjour.
Comment tu t'appelles?
Wassil.
Nassim.
Ça va?
Oui.
Vous êtes dans le rassemblement là?
Oui. Contre l'islamophobie. Je dirais qu'on n'admet pas que l'islam soit rejeté comme cela et qu'on devrait plutôt l'accepter comme on est et pas, par exemple, écrire des messages comme vous voyez là-bas, ici de l'autre côté.
Sur le mur?
Oui.
Qu'est-ce qui est écrit sur le mur?
Islam Beuten, donc au revoir à l'islam, je dirais, ou plutôt l'islam au revoir. Et je trouve ça inadmissible, parce que c'est quand même un signe raciste, je trouve, et ça devrait pas être admis.
T'as quel âge?
11 ans.
Et
moi,
toi?
Moi, c'est 5 ans. Bonne soirée!
Dans le rassemblement, il y a un nombre important d'enfants, à peu près 20 enfants qui sont là et qui ont un panneau dans leur main avec la photo de Youssef. Et il y a une grande banderole à la mémoire de notre frère, la vérité sur la mort de Youssef au commissariat.
La vérité sur Youssef, stop à l'islamophobie. La vérité sur Youssef, stop à l'islamophobie.
Et là maintenant on est avec Nordine. Je vous laisse vous présenter. Vous êtes membre d'une association aussi qui lutte contre l'islamophobie.
Oui, qui s'appelle Bruxelles Panthers.
Est-ce que vous faites un lien entre la médiatisation des départs pour la Syrie et la montée d'islamophobie?
Non, je ne fais pas un lien direct. Par contre, le contraire, bien que la montée de l'islamophobie et ce climat islamophobe permet aujourd'hui de dire tout et n'importe quoi. Et malheureusement, les médias ne font pas ce que je considère qui devrait être leur job, c'est-à-dire un travail d'analyse et savoir aussi les raisons du pourquoi de certaines situations, pourquoi certains jeunes partent en Syrie. Je peux affirmer que ces jeunes ne partent pas pour des raisons religieuses. Ces jeunes belges ou français se sentent plus belges ou français. À force de leur dire « vous êtes étranger, vous êtes étranger, vous êtes étranger », ils ont intégré qu'ils sont étrangers et ils vont dans des pays penser défendre une lutte qu'ils croient juste.
Au début, quelques jeunes disparaissent.
Allahu Akbar !
Des départs qui vont ensuite se renouveler et prendre une ampleur sans précédent.
Parmi eux, une douzaine seraient mineurs. Et il n'y a pas que des Français, mais des Anglais, des Allemands, des Belges.
Ils s'appellent Nora, Malik, Abdel ou Romain.
Il serait 12 à 13 000 combattants étrangers en Syrie, dont 1 000 à 1 500.
Ils viennent de Toulouse, de Strasbourg, de la région parisienne.
Qu'est-ce que t'en fous encore?
Et ils sont partis faire le djihad.
Ils sont explosés en 1 000 morceaux dans le château d'Allah, c'est bien.
Allahu Akbar!
Alain Grèche, vous êtes journaliste au monde diplomatique. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre le traitement médiatique des départs pour le djihad en Syrie et l'islamophobie?
Oui, bien sûr. Les médias voient la question de l'islam d'une manière très particulière, ce qui fait qu'ils sont prêts à accepter n'importe quelle information pourvu qu'elle les conforte dans l'idée qu'il y a une menace islamique, une menace qui est à la fois une menace sur l'ordre intérieur, sur nos valeurs, et une menace internationale. C'est d'autant plus fort en France qu'il y a un refus qui est vraiment une exception française de reconnaître qu'il y a une islamophobie en France. Ça, c'est vraiment les médias vous disent toujours ça n'existe pas. L'islamophobie, c'est un concept qui a été créé pour empêcher la critique de l'islam. alors que dans tous les autres pays européens, on reconnaît cette islamophobie, c'est-à-dire le fait qu'on attaque des gens parce qu'ils sont musulmans, on les discrimine parce qu'ils sont musulmans. Les médias, en général, refusent cette qualification. Et je crois que ça, c'est effectivement aussi quelque chose de grave. Donc, ce qu'il faut souligner, c'est que si toutes ces informations passent, c'est parce que les journalistes ou les médias partagent cette idée de la menace que nous faisons face à une menace islamique.
Pourquoi il y a une émotion comme ça? Moi, je pense que c'est parce que, sans le dire, on voit ce qui est en train de survenir, c'est-à-dire des quartiers, des villes et bientôt des départements, donc des régions entières, complètement halalisées.
On se demande souvent pourquoi est-ce que, et je me suis demandé quand j'ai écrit Tir croisé, il est plus difficile de résister à l'intégrisme musulman qu'à l'intégrisme juif ou chrétien. Parce qu'il est incontestable que l'intégrisme violent, que l'intégrisme musulman aujourd'hui est plus violent.
On ne négocie pas avec la culture française, on s'y soumet.
Chaque chose en son temps, on laisse répondre.
Ah bah oui, mais j'ai pas fini.
Attends, vous avez pas fini, mais vous avez dit déjà quelque chose d'extrêmement dangereux.
Ils sont en train de mettre un tissu où il est écrit « Muslim rights », le droit des musulmans. Et il y a des petits panneaux sur la droite, sur un camion.
Voilà, donc le slogan « Votre véritable ennemi, c'est la peur, pas l'islam ».
Mohamed Ramoussi, porte-parole de Muslim Rights Belgium.
Donc porte-parole de l'association qui organise le rassemblement.
Exactement. Nous constatons de plus en plus d'actes islamophobes. Alors si c'est des actes concrets que vous voulez entendre, voici un acte concret du jeune Hamza qui a fait une sortie paintball avec ses amis. Et puis un journaliste a repris sa photo et a dit que c'était un camp djihadiste. Alors que c'était organisé par des non-musulmans, les organisateurs n'étaient pas musulmans, cet homme n'a aucun rapport avec le djihadisme, ni de près ni de loin. Et cette photo a fait le tour de l'Europe, même en France, a été repris en Belgique, et il a été menacé de perdre son emploi. Donc c'est de l'islamophobie parce que le journaliste s'est basé sur une sélection d'images parce qu'il a une apparence musulmane. Alors que c'est du airsoft, c'est comme du paintball.
C'est quelqu'un qui était en forêt pour faire du paintball.
Voilà, c'est un passionné de paintball qui fait ça chaque fois avec des amis qui ne sont pas musulmans. Il y en a sûrement parmi eux. Mais voilà, je pense que l'amalgame est là. Quoi.
Alain Grèche.
Il commence à y avoir une prise de conscience que l'islamophobie est un vrai problème parce que, notamment la Commission nationale consultative sur les droits de l'homme, qui tous les ans fait un rapport sur les actes racistes, antisémites, etc., a, dans son dernier rapport, souligné deux choses. D'abord, la montée très importante des actes hostiles aux musulmans, c'est-à-dire soit contre les personnes, soit contre les mosquées. Et elle a, après une longue discussion interne, reconnu que l'islamophobie était un vrai problème en France. Et je pense que ça, c'est un pas en avant qu'il faut souligner. Mais ce rapport a été totalement ignoré par les médias.
Le voile
complètement halalisé
qui interdit aux femmes d'être ce qu'elles sont.
L'intégrisme musulman aujourd'hui est plus violent.
Il prépare la guerre sainte ou est-ce qu'il prépare la guerre raciale ou est-ce qu'il prépare autre chose?
Expulser.
Quand une telle concentration de musulmans.
Expulser.
De résister à l'intégrisme musulman.
Des musulmans ultra radicaux.
Extrêmement.
Ça, on peut pas être dans leur tête.
Dangereux.
Merci beaucoup.
Et une grande journée de mobilisation contre l'islamophobie est prévue le 13 décembre prochain.
Radio It Yourself. Remixez-le, vous le.
Sur France Inter.
Il nous reste peu de temps pour vous annoncer que vous pouvez retrouver Comme un bruit qui court samedi prochain en direct, en public et en musique depuis l'agora de la Maison de la Radio. À l'occasion de cette grande journée de porte ouverte, nous vous ouvrons les ondes avec notre Radio It Yourself. Mixez-le vous-même, remixez-le vous-le. Déjà plein de sons à télécharger sur le site de l'émission franceinter.fr. Radio It Yourself, des accroches, des virgules, des boucles, des ambiances. Retrouvez tout ça, mixez-le, nous-le, envoyez-le et les meilleurs extraits passeront à l'occasion de cette émission en direct et en public.
Comme un bruit qui court est réalisé par Jérôme Chélius, assisté de Karen Dehay. Et à la technique aujourd'hui, c'était Pauline Laverdure, David Federman, Gilles Gaillard et Benjamin de la Gâtinais. À la programmation musicale, c'était Jean-Baptiste Audibert. Juste après le flash, vous retrouverez Colin et Mauduit, si l'Amérique m'était comptée.
Et nous, on compte sur vous pour le Radio It Yourself. Envoyez-nous vos remixages pour la semaine prochaine. Hashtag comme un bruit.
L'immixion des auditeurs mixeurs dans l'émission.